Religion en regard sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Alliance Plus. Nous voici de nouveau pour Religion en regard et aujourd'hui, nous avons comme invité Marc Millet. Marc Millet, vous êtes prêtre, engagé comme frère dominicain depuis 2009, membre et bibliothécaire de la commission Léonine depuis 2013, vicaire, et vous avez fait une thèse sur Thomas d'Aquin. Ce pourquoi vous êtes dans la région de Nîmes, parce qu'autrement vous habitez Paris, je crois. Voilà, et vous êtes venu nous rejoindre pour parler pendant deux cours de Thomas d'Aquin, cours qui seront donnés à l'Université populaire des religions, à la Maison du protestantisme, mercredi 3 décembre et mercredi 10 décembre à 19h. Alors nous voilà ensemble pour parler d'abord de vous, Marc Millet. Qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur votre parcours, sans être trop long, parce que je suppose qu'il a été jalonné de beaucoup d'événements dans votre vie, mais voilà.
Je vous remercie d'abord de m'accueillir dans vos studios et puis de me donner l'occasion de me présenter et de présenter aussi ce que je vais essayer de transmettre dans ces deux cours de l'Université populaire des religions. J'ai 58 ans, je suis originaire du pays de Montbéliard, donc dans le Doubs, et j'ai d'abord été prêtre diocésain et ensuite en 2009, comme vous l'avez rappelé, je suis entré dans l'ordre des prêcheurs, autrement appelé dominicain, donc dans l'église catholique. Et puis, donc, il se trouve qu'une fois dominicain, il m'a été demandé de travailler à l'édition critique des œuvres de Thomas d'Aquin, autrement appelée la commission Léonine.
Ah, la commission Léonine, donc, elle est spécialisée seulement au sujet de Thomas d'Aquin.
Voilà, exactement. C'est un institut qui a comme mission de produire une édition critique complète des œuvres de Thomas d'Aquin. Et ce groupe de travail a été créé par le pape Léon XIII, donc à la fin du XIXe siècle, en 1878. Le pape a publié une encyclique importante qui s'appelle Eterni Patris sur les rapports entre la philosophie et la religion, au cœur du... Donc elle était adressée d'abord aux catholiques, mais aussi à ceux de bonne volonté de l'époque. Et elle a reçu une très forte audience dans le monde protestant, en particulier allemand. Et dès la fin de l'année 1878, le pape a créé une commission, un groupe de cardinaux au départ, qui était chargé de réaliser cette édition des œuvres de Thomas d'Aquin. Et par la suite, ce projet a été confié aux frères dominicains, et donc un institut qui travaille toujours depuis 1878. Donc nous sommes dans une histoire longue, avec petit à petit l'élaboration de différentes méthodes, d'échanges avec beaucoup de scientifiques, et bien au-delà évidemment des frontières de l'Église catholique.
Ça doit être une œuvre conséquente pour y consacrer autant d'années. Et donc, c'est une personne, on peut dire ça, hein, une personne, oui. Thomas d'Aquin, qui vous a touché, qui vous a attiré, Comment est-ce que vous êtes venu d'abord on parlera peut-être de l'Université populaire après, mais en tout cas, comment vous êtes venu vers Thomas d'Aquin, vous ?
Thomas d'Aquin, enfin, dans l'Église catholique et dans ma formation théologique, on le croise très souvent comme une des autorités, un des points de repère, disons, de la construction de la dogmatique et de la morale catholique. Donc, c'est un personnage du XIIIe siècle, mais qui est très sollicité, hein, on va dire ça comme ça, par les théologiens. Et donc, on le croise effectivement très souvent. J'ai eu l'occasion, au siècle dernier, de faire ma licence sur Thomas d'Aquin. Et puis ensuite, lorsque je suis rentré dans l'ordre des prêcheurs et qu'on m'a demandé ce que je voulais faire, moi, je souhaitais faire une édition d'un texte médiéval. Et on m'a proposé donc d'apprendre la paléographie latine médiévale, la critique textuelle auprès de la commission léonine. Et puis finalement, eh bien, j'y suis resté. Voilà. Donc ce qui m'a intéressé, je dirais d'abord, et ce qui m'intéresse toujours, c'est avant tout les documents, l'histoire d'un texte, comment à travers l'histoire d'un texte se joue l'histoire des idées, de la pensée, des mentalités. Et évidemment, Thomas d'Aquin est un personnage, je dirais, tout à fait privilégié pour ce genre de recherche, puisqu'il a produit énormément de son vivant, et ensuite il a suscité aussi un intérêt énorme. Donc au niveau de l'histoire textuelle, documentaire, c'est une mine tout à fait exceptionnelle, et qui justifie d'ailleurs aussi la durée de cette commission léonine, la durée de son travail, puisque nous sommes face à une masse documentaire. À peu près 4000 manuscrits aujourd'hui sont encore conservés dans le monde de Thomas d'Aquin, c'est-à-dire 10% de ce qui a existé, sans doute. Et d'autre part, il y a évidemment de très nombreuses éditions imprimées sur lesquelles nous travaillons pour établir l'édition critique.
Et cette commission léonine, c'est un groupe de personnes, donc oui. Elle est constituée de qui ?
Alors, la commission léonine actuellement, donc elle a été à différents endroits, elle se trouve actuellement à Paris, donc rue de la Glacière, donc à côté d'autres institutions dominicaines, donc de l'ordre des prêcheurs. Et concrètement, donc nous sommes à Paris trois frères dominicains et deux laïcs. Voilà. Et puis il y a un sixième membre qui lui est aux États-Unis. Donc nous sommes un petit groupe de travail. Donc nous sommes ce que nous appelons dans notre jargon les membres ordinaires. Et puis nous avons aussi des associés. Alors à différents endroits, ça va être aux États-Unis, en Espagne, etc., qui travaillent sur tel ou tel sujet, mais qui ne sont pas à Paris de manière habituelle. Par exemple, nous avons deux membres de la commission léonine qui travaillent sur le catalogage des manuscrits de Thomas d'Aquin de la Bibliothèque apostolique vaticane. Deux Américains, une religieuse et un laïc, qui travaillent à ce catalogue, puisque à la Vatican, il y a un fonds énorme de manuscrits de Thomas, à peu près 500 à 600.
Donc vous êtes aussi bibliothécaire, si j'ai bien lu quelque part. Est-ce que vous l'êtes toujours
ou... Alors je suis oui, à la fois vice-président et bibliothécaire, mais vous voyez, donc les effectifs sont très peu, nous sommes peu nombreux, donc nous cumulons parfois pas mal de casquettes et de fonctions. Ouais. Effectivement, donc vous imaginez que pour établir une édition critique, eh bien il est besoin de nombreux documents. Donc d'abord, il y a les documents qui sont les photographies des manuscrits. Donc nous avons un gros fonds de photographies, de microfilms, qui a été constitué dans les années 1950-60 par de nos frères qui ont voyagé dans toute l'Europe de l'époque, y compris au-delà du rideau de fer, pour photographier d'une manière systématique les manuscrits de Thomas d'Aquin et également les incunables, donc les livres imprimés avant 1500. Et nous avons aussi donc ce que nous appelons les feuilles de collation, c'est-à-dire les supports sur lesquels on fait concrètement les comparaisons entre les variantes que nous trouvons dans les différents documents. Puisque la clé de l'édition critique consiste dans la comparaison des variantes qui permet de remonter un document pair des documents qui portent ces variantes. Et nous avons aussi donc de très nombreuses éditions imprimées de Thomas d'Aquin et aussi un gros fonds de sources, puisque nous devons aussi identifier les sources de l'auteur, comme ça se fait pour n'importe quelle édition qui se respecte. Et donc nous avons un gros fonds de à la fois les Pères de l'Église, non seulement dans des éditions contemporaines, mais aussi des éditions plus anciennes qui peuvent conserver des leçons qui nous intéressent. Donc nous avons une bibliothèque extrêmement spécialisée qui fonctionne donc depuis maintenant 150 ans. Donc nous acquérons encore des volumes et parfois même des volumes du 15e ou du 16e siècle pour enrichir notre documentation.
C'est un très gros travail et très minutieux, je pense, et qui demande beaucoup de concentration, se cadrer, puis de... Vous travaillez aussi ensemble, vous interpellez les uns les autres, ou chacun a son petit travail à faire?
C'est une très bonne question que vous posez là. D'abord, le travail effectivement est un peu aride, ça je ne vais pas vous le cacher. Et en même temps, il a quelque chose de passionnant. Enfin, il ressemble par certains côtés beaucoup à une sorte d'enquête policière. face à un certain nombre d'indices, eh bien, nous essayons d'émettre des hypothèses que nous avons à vérifier ou pas, voilà, et puis nous devons reprendre ensuite un nouveau chemin. Et d'autre part, même si chacun a un dossier particulier, parce que nous avons des centres d'intérêt particuliers, moi je m'intéresse plutôt à la prédication médiévale, donc je travaille plutôt sur la prédication de Thomas, ce qui ne m'empêche pas de m'intéresser à d'autres œuvres de Thomas, mais un tel autre qui sera plus versé dans les questions métaphysiques ou philosophiques ou théologiques, eh bien on va lui confier un dossier avec lequel il se sentira plus en affinité. Donc nous avons chacun notre dossier d'édition, mais en même temps nous travaillons régulièrement ensemble, nous nous relisons les uns les autres, parce que évidemment il y a une technicité, et il y a aussi le fait que de par la familiarité qui se crée avec le dossier, nous pouvons nous engager dans des impasses.
Et donc,
Et c'est important donc de nous interpeller nous aussi en reposant des questions. Donc ça se fait lors de séminaires, ça peut se faire aussi lors d'interventions que nous avons à faire à l'extérieur, où nous soumettons nos textes les uns aux autres, et donc ça permet d'enrichir notre... Il y a un vrai travail mutuel. Enfin, pour moi, c'est aussi quelque chose de très important. Donc évidemment, ce travail me permet de satisfaire ma curiosité, ma grande curiosité, mais en même temps, le travail d'équipe est pour moi extrêmement important et intéressant parce que nous apprenons énormément les uns des autres. Personne ne sait tout, donc nous enrichissons les uns les autres. Nous avons l'occasion de partager à peu près tous les jours. Nous avons l'occasion de... Est-ce que tu as pensé à telle chose ou à tel élément? Et puis, voilà. Nous avons une culture d'entreprise aussi, d'une certaine manière, enfin, qui se développe. Voilà.
C'est tout à fait passionnant. Et c'était d'une grande richesse et d'une grande ouverture aussi, parce qu'il faut vraiment à la fois être ensemble et être dans son domaine. Je vous propose, avant de continuer, de parler peut-être de votre relation avec l'Université populaire des religions, et puis... quelques mots encore sur Thomas d'Aquin quand même, de faire une pause musicale que vous nous avez proposée, qui est un prélude de Bach, BWV 659 de Bach, et c'est, je crois, Léo van Dosselaar à l'orgue, avec une prononciation peut-être pas tout à fait au top, mais voilà. Donc nous l'écoutons et puis nous revenons ensemble pour continuer notre passionnante conversation au sujet de Thomas d'Aquin avec Marc Millet. Thank you. Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, vous écoutez le 103.2. Vous pouvez nous écouter en DAB+, ou bien aller tout simplement sur notre site radioallianceplus.fr pour écouter nos podcasts. Et vous aurez l'occasion ainsi d'écouter Marc Millet une autre fois si vous le désirez, et d'écouter aussi ses cours qu'il va donner mercredi 3 décembre et mercredi 10 décembre à la Maison du Protestantisme à 19h, dont tout prochainement. Et si vous avez raté une partie, vous pourrez vous rattraper avec nos podcasts. Alors, Marc Millet, je rappelle que vous êtes frère dominicain et engagé dans la commission Léonide pour travailler, potasser, je dirais, sur Thomas d'Aquin. Et donc, vous avez été contacté par l'Université populaire. Comment ça s'est fait, cette rencontre? Qui vous a contacté? Comment ça a été possible?
Alors, ça a été possible parce que je me trouvais à... au vernissage de l'exposition de l'Institut du monde arabe, de l'exposition sur Gaza, 5000 ans d'histoire. Et j'ai été contacté à ce moment-là par Madame
Véronique Blanc-Bigeon.
Madame Véronique Blanc-Bigeon, exactement, et qui m'a parlé de ce projet. J'ai répondu tout de suite, j'ai parlé à mon président qui a été évidemment tout de suite d'accord.
Qu'est-ce que ça vous a dit, Université populaire des religions? Ça vous a pas intrigué? Alors, on vous a donné suffisamment d'explications?
Alors, si vous voulez, d'abord, je dois dire que malgré l'impression que pourraient avoir nos auditeurs avec ce que je viens de dire sur la commission Léonine, nous ne sommes pas une espèce de tour d'ivoire ou de forteresse assiégée. Le travail que nous pratiquons, qui est un travail d'édition critique d'un texte, est pratiqué par de très, très, très nombreux chercheurs qui n'ont rien à voir avec les confessions chrétiennes et qui sont très loin du monde médiéval. Donc, j'allais dire, presque naturellement, nous sommes sans cesse sollicités pour des rencontres avec des médiévistes, ou parfois aussi sur des questions beaucoup plus contemporaines. Voilà. Donc, nous sommes habitués à répondre à des demandes d'universités, d'instituts. Moi-même, j'ai eu l'occasion de parler dans des cadres extrêmement variés. Et donc, Université populaire des religions, eh bien, immédiatement, pour moi, c'est pourquoi pas. Et d'autre part, je crois que c'est un défi très intéressant lorsqu'on est dans un travail de recherche, d'essayer de faire comprendre à d'autres l'objet de notre recherche, son intérêt et ses enjeux. L'Université populaire des religions, immédiatement, personnellement, cela m'a parlé, parce que qu'est-ce que nous faisons à la Léonine? Nous sommes en train de redonner à un texte médiéval, de quelqu'un certes de tout à fait vénérable et très important, qu'on aurait peut-être un peu, porté sur un pinacle et dont on ferait une espèce d'absolu. On est en train d'abord de le resituer dans un contexte et d'autre part de donner aussi les ressorts profonds qui animent cette pensée, c'est-à-dire redonner une épaisseur à la fois intellectuelle et culturelle à la foi et à son expression. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important dans notre société, dans notre monde, de se rendre compte que la foi n'est pas simplement une conviction, un coup de cœur, mais c'est aussi quelque chose qui est adressé à tout l'homme, dans toutes ses dimensions, y compris sa raison et son intelligence. Et me semble-t-il, Thomas d'Aquin est un très bon témoin de cela. Lorsque je fais une note de bas de page, je ne suis pas en train de faire d'identifier une source, mais je suis en train de rappeler que ce croyant a mobilisé le meilleur de la tradition philosophique, de la tradition théologique, pour essayer de rendre compte de sa foi. Et là, je crois que c'est un défi permanent pour tous les croyants et tous les chrétiens de tous les temps, et même d'autres religions. C'est-à-dire que ma foi, ma religion, n'est pas simplement un petit département de mon existence, mais elle doit mobiliser en moi ce qu'il y a de meilleur, de plus noble, et en particulier mon esprit et ma culture.
Donc, pour vous, il est toujours d'actualité, Thomas d'Aquin, même si... c'est quelles années? Est-ce que vous pouvez nous rappeler maintenant?
Donc, Thomas d'Aquin a vécu entre 1226 et 1274. Si vous voulez, l'actualité, moi, comme chercheur, je suis pas là pour faire la promotion de Thomas d'Aquin. Je ne suis pas au cœur du thomisme international. Mais, si vous voulez, ce qui m'intéresse chez lui, c'est pas de transporter Thomas d'Aquin aujourd'hui, c'est de me rendre compte que sa manière de penser, sa manière de raisonner, sa manière d'utiliser et la philosophie et les ressources de la théologie pour exprimer sa foi, a quelque chose à me dire de la manière dont aujourd'hui j'ai à mobiliser des ressources philosophiques, théologiques, pour dire ma foi et pour lui donner de la profondeur. Dans le sens où je suis d'abord en contact avec un autre croyant aux prises avec sa conviction et avec sa foi, qui essaie d'en rendre compte. Et moi aussi, j'ai à rendre compte. Vous voyez, ce n'est pas simplement une transposition d'une doctrine d'autrefois où il faudrait absolument la calquer sur le monde d'aujourd'hui, où elle devrait fonctionner parce que forcément, elle est très, très bonne et très bien conçue. Mais plutôt, il y a une manière dont, dans le rapport que Thomas d'Aquin entretient à sa foi, aux moyens qu'il va mobiliser, en particulier la philosophie, il y a dans ce rapport qu'il institue quelque chose qui peut être fécond pour aujourd'hui et qui peut être institué entre la foi, la philosophie. Et je crois que c'est un défi de tous les temps. C'est-à-dire que faire que notre acte de foi ne soit pas simplement suspendu entre ciel et terre, mais que vraiment il vienne mobiliser les ressources les plus nobles de l'humanité, en particulier son intelligence, son esprit, sa manière de penser.
D'accord. Et donc, Thomas d'Aquin, il a vécu combien d'années et où, à peu près,
alors,
juste pour donner deux ou trois indications supplémentaires.
Thomas d'Aquin est né en Italie, dans le sud de l'Italie. Il naît dans le royaume de Sicile, qui à l'époque est contrôlé par Frédéric II de Hohenstaufen, à la limite avec les États pontificaux. C'est une famille de la campagne, donc une famille possessionnée avec quelques châteaux. Il est de la branche cadette de la famille d'Aquin. Il fait ses études d'abord au Mont Cassin, où il apprend à écrire, donc entre 5 et le début de son adolescence, 5 ans et le début de son adolescence. Ensuite, il va à Naples. Et là, à Naples, c'est l'événement peut-être très important pour lui. Il découvre cet idéal des dominicains. Donc, qui ont été fondés par Saint Dominique, qui est mort en 1221, qui fonde notre ordre en 1215. Et Thomas d'Aquin, donc en avril 1244, reçoit l'habit des frères prêcheurs. Et c'est quelqu'un donc, qui sort complètement de ce monde, je dirais, des châteaux et des abbayes, ce monde féodal, pour entrer dans une modernité religieuse que représentent les mendiants à l'époque, donc les dominicains, les franciscains, dans le monde de la ville, et puis le monde de l'université, où il va se trouver, donc en 45-46, il se trouve à Paris, à l'université, donc au couvent Saint-Jacques, il fréquente l'université, il croise les pas d'Albert le Grand, il le suit à Cologne, il revient à Paris, où là il va donc enseigner à partir de 1251-52 jusqu'à 59, donc il reçoit sa maîtrise en théologie, ensuite il va retourner en Italie, d'abord à Naples, ensuite à Orvieto, ensuite à Rome, et puis de nouveau à Paris dans les années 1268-1272. Donc les deux enseignements parisiens de Thomas sont les grands moments de sa carrière, si on peut parler ainsi, dans le sens où il doit enseigner, et ça fait partie de la fonction du maître en théologie de l'époque, donc il doit commenter chaque jour la Bible, et puis d'autre part, il doit aussi animer des questions disputées, donc des moments d'échange, et d'argumentation très fort entre étudiants et maîtres. Et puis, d'autre part, il assure aussi un certain nombre de prédications. Vous voyez, un maître université de l'époque n'est pas simplement un intellectuel en chambre, ou bien quelqu'un qui se contente de faire un cours, mais c'est très global. Il a accès aux sources de la théologie, donc, qui est la Bible. Il doit animer des disputes, donc des moments où des arguments patristiques, philosophiques ou bien d'autres auteurs sont mis en œuvre et lui-même doit résoudre la question et argumenter et d'autre part répondre à chacune des objections qui ont été formulées. Et d'autre part, il doit aussi prêcher. Donc des moments extrêmement forts et très, j'allais dire, très complets qui est celle de l'activité d'un maître en théologie de cette époque-là.
Ouais. Lui aussi, il n'était pas dans sa tour d'ivoire, si je comprends bien.
Alors,
il était quand même au cœur du monde et avec des interpellations, sans doute, qui n'étaient pas forcément toujours très faciles.
Effectivement, donc il y a eu... Alors, Thomas d'Aquin pratique une théologie qui est très... je la qualifierais d'objective. C'est-à-dire que c'est très difficile, parfois, dans certains textes, de sentir les échos des débats. Et un de nos défis comme éditeur du texte, c'est de rappeler les problématiques qui se trouvent en arrière-plan de ce qu'il énonce. Souvent, on a pratiqué une lecture de Thomas d'Aquin qui était vraiment au ras de la lettre et sans regarder ce qui se joue derrière. Et il est important de se rappeler donc qu'il a été confronté à de véritables questions. Par exemple, je prends la question de du développement de la pensée aristotélicienne qui a remis en cause chez certains le lien entre philosophie et foi et abouti à une critique extrêmement forte de la théologie, y compris de la part de maîtres de l'université ou de clercs. Et Thomas d'Aquin donc, a réagi et, en essayant de rééquilibrer ce rapport entre philosophie et théologie en montrant tout ce que la raison peut apporter par elle-même, la philosophie, et d'autre part, tout ce qu'il y a de spécifique dans la science théologique qui, elle, se reçoit de l'illumination que l'âme reçoit de Dieu. Et donc là, c'est une des clés de la pensée de Thomas, c'est ce grand équilibre entre la raison et la foi.
Mmh. Très intéressant, oui. Je sens que ça va être passionnant. Moi, je vais au cours, donc j'en saurai énormément plus. Et je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à faire de même, à venir écouter Marc Millet. Pour terminer notre émission, Marc Millet, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous vivez avec Thomas d'Aquin, je dirais. Qu'est-ce qui vous donne? Ou qu'est-ce qui vous a donné? Ou qu'est-ce qu'il vous donne encore?
Effectivement, mon travail personnellement, enfin,
pas seulement au niveau du travail.
Oui, j'ai bien compris, mais je veux dire le ce qu'il m'apporte, je crois que c'est une grande attention au texte. Personnellement, travaillant depuis maintenant une quinzaine d'années sur de manière assidue et régulière sur Thomas d'Aquin, il m'a apporté de renouveler profondément ma lecture de la Bible, de la Sainte Écriture. Dans le sens où cette attention au texte, à la manière dont un texte se construit, dont une pensée se façonne, pour moi, a rejailli dans mon contact avec la parole de Dieu et une attention renouvelée au texte biblique. Et je crois que par là, je ne suis pas très loin de Thomas d'Aquin, dont on a redécouvert tout au long du XXe siècle combien sa théologie était en fait une théologie biblique, combien il s'enracinait non pas dans une espèce de logique ou de syllogisme, mais que bien des problématiques qu'il développait avaient leur source en réalité dans la Sainte Écriture, dans sa lecture croyante de la parole de Dieu.
Il y avait des commentaires, il faisait des commentaires des textes bibliques.
Oui, donc il a écrit plusieurs... Donc il devait donner, comme maître de l'université, il devait donner donc tous les jours... Il commentait la Sainte Écriture. C'était le cours du matin. Il devait commenter la Sainte Écriture. Et ces commentaires sont des commentaires qui se trouvent vraiment au ras de la lettre, ce qu'on appelle dans les commentaires du Moyen-Âge, donc ad litteram. Il devait expliquer le texte, je dirais, dans ses articulations les plus immédiates, dans ses articulations littéraires. Et au cœur de cette lecture, donc, surgit des questions, surgit des interrogations, et qu'il va devoir résoudre. Et on se rend compte que dans ce travail, disons, premier, originel, qu'il fait avec ses étudiants, on le retrouve ensuite, par exemple, dans la Somme de théologie, qui est un de ses ouvrages les plus fameux, où on se rend compte que les argumentations bibliques, sur lesquelles on a parfois on dit oui, c'est accommodatif, ou bien c'est une manière de tirer le texte à soi, etc. En réalité, très souvent, il y a derrière une vraie problématique qui vient de cette lecture de la Sainte Écriture. Et quand on regarde ses prédications, là aussi, on est toujours fasciné de voir combien son propos est un propos qui est densément biblique. Bien sûr, il ne lit pas la Bible comme nous la lisons aujourd'hui, mais en même temps, on voit combien sa lecture quotidienne de la Sainte Écriture, combien les cours qu'il a donnés sont marqués par la parole de Dieu et par le texte biblique.
Eh bien, nous avons un large éventail déjà de ce que peut être Thomas d'Aquin, et nous avons envie d'en savoir beaucoup plus. Et malheureusement, nous sommes obligés d'arrêter notre émission, mais vous avez un joker, chers auditeurs et auditrices, d'aller écouter Marc Millet. Donc, je rappelle que vous êtes frère dominicain et membre de la commission Léonide qui travaille sur Thomas d'Aquin d'une manière très particulière avec de nombreux documents et que vous êtes plongé dedans. Donc, nous allons profiter de votre savoir et de votre grande passion pour Thomas d'Aquin. Merci d'être venu à Radio Alliance Plus.
Merci de votre invitation.
Au revoir.